Bienvenue dans Les Destins Flottants, le podcast au sujet des croyances limitantes en voie de devenir illimitées. Je suis Anaïs Leduc et depuis mes 15 ans, je m'intéresse au comportement humain à travers la philosophie, la psychologie et la psychanalyse. Sur ce podcast, je vous emmène à la découverte de personnalités inspirantes qui ont dépassé leurs croyances afin d'atteindre leurs objectifs. Ils sont explorateurs, aventuriers, comédiens, musiciens, entrepreneurs. Tous et toutes ont opéré à des changements de perception afin de transformer leur destin. Laissons-les nous inspirer afin de dépasser nos propres peurs. Donc aujourd'hui, j'interviewe Monsieur Flex, alias Thomas, ou plutôt l'inverse, Thomas alias Monsieur Flex, que ce soit en moto, en voiture, à vélo, à pied ou en courant. Il y a des manières diverses et variées de voyager, mais avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a fait le tour du monde en giro-roue ? On se demande comment c'est possible dans un premier temps, et Thomas vous le montre. Donc, il entreprend des aventures et des voyages en giro-roue, donc pour ceux qui savent pas, c'est une monoroue électrique. Et en fait, on s'est rencontrés dans l'avion retour depuis les Philippines. De son tour du monde qui a été interrompu donc par la pandémie l'année dernière, en 2020.
C'est ça, exactement, oui.
Voilà, donc je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui, Thomas. Comment ça va ?
Écoute, moi aussi, je suis super heureux de te retrouver. Ça va très bien. J'ai hâte de discuter avec toi et de partager un petit peu ce que j'ai fait, mon état d'esprit avant, après, pendant. Enfin, voilà, je répondrai à tes questions et j'espère que ça vous plaira.
Super. Alors, donc, je commence toujours par cette question pour le podcast, qui est « Enfant, qu'est-ce que tu désirais ? Est-ce que tu avais des rêves ?»
Alors, de ce que je me souviens, très très jeune, comme beaucoup de petits garçons, je rêvais d'être, pas forcément pompier ou policier, mais archéologue. C'était, tu sais, la période avec les films Indiana Jones, La Momie... Jurassic Park, tu dis « Ah ouais, je peux creuser et trouver des os dans le sol ». Donc j'avais cet esprit un petit peu voyage peut-être dans l'histoire, de se dire « Ok, il y a plein de choses à découvrir déjà, ne serait-ce qu'en creusant la terre ». Et très vite, je me suis intéressé au dessin. J'ai été très créatif, jeune et encore aujourd'hui. Hein. C'est quelque chose qui me passionne, dessiner, construire des choses... que ce soit avec les médias vidéo, photo ou même dessin. Donc ça m'a toujours poursuivi dans ma scolarité et dans ma jeunesse, à tel point que on me disait souvent que j'avais, la tête dans les nuages, quoi. J'étais un grand rêveur.
Un artiste.
Oui, on peut dire un artiste. Non, oui, c'est vrai.
Et est-ce que tu as essayé de concrétiser alors? Certains rêves d'enfant, justement, comment ça s'est passé pour toi à l'école ?
Justement, donc à l'école, on va dire que les matières générales, c'était pas mon fort, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Donc très vite, j'étais orienté après le collège dans des écoles d'art. Donc j'ai fait un CAP dessinateur, ensuite j'ai fait un bac pro communication graphique. Donc après, là, ce qui m'intéressait, c'était ça, c'était créer du marketing, faire des affiches de cinéma, faire des flyers, enfin voilà, pouvoir concrétiser mes projets, enfin des projets de quelqu'un d'autre, mais les faire, ça me plaisait beaucoup. Et entre-temps, j'aimais bien aussi la vidéo, j'aimais bien faire du montage vidéo, et je m'orientais doucement après le lycée, à l'université, dans un cursus web designer et en même temps monteur vidéo, que finalement j'ai interrompu. Parce que ça devenait trop de charge de travail. J'ai du mal à travailler, malheureusement, quand c'est pour l'école. Mais en tout cas, oui, je faisais quelque chose qui me plaisait. Ça m'a nourri, ça m'a construit. Et aujourd'hui, j'ai acquéri quand même, grâce à ce cursus scolaire, quelques bases supplémentaires sur ce que je suis capable de produire aujourd'hui pour mon compte personnel. Si tu vois ce que je veux dire par rapport à ma chaîne YouTube. Que j'ai créé. J'ai créé une marque de vêtements. Ça m'a nourri et ça fait ce que je suis aujourd'hui. Entre mes passions, ma scolarité et j'ai pas la fin de cette phrase, mais ce que j'entreprends de faire plus tard, quoi.
D'accord. Et à ce moment-là, donc quand tu as arrêté l'université, qu'est-ce que tu as décidé de faire finalement?
Voilà, à ce moment-là, je me souviens être un peu perdu. Je me dis, mince, ça m'embêtait d'arrêter comme ça, parce que je me suis dit, bon, bah, je trouverai jamais du travail dans les métiers qui m'intéressent. Donc, typiquement, web designer ou monteur vidéo pour le cinéma ou pour la télé. Parce que ça demande quand même une formation un peu plus poussée. Et j'avais pas du tout ce qu'il fallait pour rêver à ça. Donc, je me suis dit, OK, tant pis. J'ai quand même testé 2-3 écoles en faisant des entretiens et tout ça, mais finalement ça n'a pas abouti. Donc j'avais passé mon BAFA pour être animateur quand j'étais à l'université, pour beaucoup de jeunes, hein, pour faire un petit job étudiant pour l'été ou pour les vacances d'hiver. Du coup, j'ai trouvé une mairie qui pouvait embaucher des animateurs à l'époque, donc c'était à Versailles, et je me suis dit bon, je vais faire ça un temps. Je vais bosser une année dans l'animation, donc ça me plaît en plus, donc je me sens à l'aise, pourquoi pas tenter ça une année, histoire de mettre de l'argent de côté, pour ensuite me payer une vraie formation de monteur vidéo. À l'époque, c'était vraiment ça qui m'intéressait, donc je me suis dit, OK, une formation, ça coûte peut-être 10 000 ou 15 000 euros, j'ai pas l'argent, donc je vais bosser une année et peut-être que je pourrais me le payer. Et puis finalement, l'année passe, et bon, ça me plaît bien, je vais peut-être faire une deuxième année. Et puis une troisième. Et puis, on prend un appart. Et puis, on prend tout ça. Et puis, finalement, on se dit, bon, on s'enterre un petit peu dans quelque chose qui... Enfin, je m'enterrais dans quelque chose qui me plaisait. Et puis, finalement, j'ai mis de côté ce projet de faire du montage vidéo. Et puis maintenant, à ce moment-là, je me suis dit, OK, tant pis. Je laisse ça de côté. Et puis, je m'intéresse vraiment à ce milieu de l'animation. Et j'ai passé d'autres diplômes pour ensuite être adjoint et directeur.
D'accord.
Voilà, donc j'ai fait vraiment un virage à 90 degrés.
D'accord. Oui, et justement, on en avait parlé quand on était bloqué à Madrid, oui. Du fait que de travailler donc avec les enfants, ça t'avait énormément appris sur l'humain. Et tu m'avais raconté quelques anecdotes que tu avais eues avec les enfants. Finalement, qu'est-ce qui était le plus important pour toi dans ton métier avec les enfants à ce moment-là? Qu'est-ce qui te motivait le plus?
En fait, il y a un paradoxe à ce moment-là aussi, et c'est peut-être pour ça que ça me motivait de rester dans l'animation, c'est que j'ai toujours été, et surtout à ce moment-là, j'étais très, très timide, à tel point que j'avais du mal à m'exprimer devant des gens, que ce soit... pour aller chercher son pain, pour discuter ou faire, tu sais, un exposé. Enfin, ça a toujours été difficile pour moi, mais vraiment très, très difficile. Je sais que c'était quelque chose qui me bloquait dans la vie. Et bizarrement, j'ai pris un secteur qui est l'animation où t'es obligé de prendre la parole. Alors oui, certes, devant des enfants, donc c'est déjà un peu plus facile. Mais très vite, avec d'autres adultes, d'autres animateurs, les parents des enfants, les maîtresses, les maîtres, enfin voilà. Donc ça, je sais que ça me motivait parce que j'avais l'impression d'apprendre encore des nouvelles choses. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui, enfin je le faisais pas exprès, tu vois, mais je pense que j'avais besoin de sortir de ma timidité déjà à mon début d'adulte quoi, tu sais, vers 20, 21 ans. Donc ça a été une première phase, et donc ça c'était vraiment inconscient quoi. Et après très vite c'était pouvoir partager beaucoup de choses avec les enfants, et surtout que eux puissent me rappeler que moi aussi j'étais un enfant, et que quand t'es enfant en fait t'es tellement créatif, t'es tellement, ils sont là pour eux, mais en même temps, ils ont envie de te montrer ce qu'ils sont capables de faire. Et ça te... Enfin, je sais pas, un enfant, c'est tellement pur aujourd'hui. Enfin, quoique, il y avait quelques terribles, forcément. Mais même eux, tu vois, ils sont très inspirants, si tu veux. Moi, j'essaie de les inspirer parce que j'aime beaucoup faire, tu vois, des dessins, de la magie, des constructions, plein de choses comme ça, des jeux. Donc, je pouvais leur apporter mon rôle d'animateur, mon métier d'animateur. Mais eux, derrière, ils m'empêchaient de devenir un adulte comme je pouvais l'imaginer à ce moment-là, tu vois. L'adulte qui se lève super tôt le matin, et qui est obligé de prendre un café, qui va prendre sa clope, qui part au travail en costard avec sa mallette. Moi, à la base, c'était ça que je m'imaginais comme métier d'adulte, être adulte et avoir un métier. Et finalement, travailler avec des enfants, je me suis dit, ah non, finalement, il y a déjà un autre cheminement dans la vie d'adulte qu'on peut avoir grâce à ce métier-là, en tout cas, grâce à l'animation, tu vois.
C'est intéressant, justement, là, c'est un bel exemple de croyance, de penser que la vie d'adulte, voilà, c'est le costard-cravate, c'est d'aller au travail jusqu'à 19h, 20h et de rentrer chez soi et d'avoir l'énergie pour pas grand-chose à part dormir, voilà, le fameux métro-boulot-dodo.
C'est ça.
Et là, justement, en expérimentant donc cette vie professionnelle avec les enfants, tu as complètement modifié cette croyance et tu t'es retrouvé, tu as retrouvé ton âme d'enfant avec eux.
C'est ça.
Donc,
c'est super chouette. Et pourtant, je me voyais, tu vois, derrière un ordinateur toute la journée, toute la semaine, pour faire du montage ou de la création Internet, tu vois. Et finalement, bah, quand tu es animateur, il n'y a pas un moment où tu es sur ton téléphone ou sur un ordinateur. Tu es constamment soit à l'extérieur dès qu'il fait beau, soit en train de proposer, jouer. Enfin, c'était complètement l'opposé. Et tant mieux, quoi. C'était une période de ma vie formidable.
Ah, super. Et j'aimerais revenir justement sur la timidité. Est-ce que tu penses que tu arriverais à savoir pourquoi tu étais timide? Enfin, quelle conception, en fait, tu avais de toi-même qui faisait que potentiellement tu pouvais être timide?
Honnêtement, je sais pas. Je sais que comme j'avais déjà des... Enfin, la timidité à l'école, bon, je pense qu'il y en a beaucoup quand on est au collège, au lycée, c'est pour... Enfin, je sais que je suis pas un cas à part, quoi. C'est difficile de prendre la parole devant tes camarades de classe et finalement, t'apprends en grandissant à être un peu plus à l'aise. Mais je sais que... Bah, moi, c'était même en dehors de l'école, tu vois, et c'était difficile et je sais... Honnêtement, j'aurais du mal à... Je sais pas, peut-être que je me sentais pas... J'ai envie pas de dire pas à ma place, mais pas sociable, ou je sais pas, j'avais peur du regard des gens. Pourtant, c'est bête, hein, j'avais rien de particulier, mais je sais que c'était difficile. Mais je sais pas, peut-être que c'est un travail après inconscient qu'aujourd'hui, maintenant, j'ai plus ce problème de timidité, ou en tout cas moins. Mais à l'époque, quand je me compare à mon petit frère, tu vois, qui lui était complètement. À l'aise pour aller à parler à droite à gauche, même à des inconnus et tout, et moi je pouvais pas. Je l'enviais, quoi. Je me disais, punaise, pourquoi toi t'y arrives et moi j'y arrive pas? Alors peut-être parce que je suis grand, je suis plus grand que lui, et quand t'es enfant, tu te dis, bah non, t'es insouciant, t'as peur de rien. Mais pourtant, moi, à son même âge, j'en étais incapable, quoi. Donc, ouais, je saurais pas te dire exactement pourquoi. Je sais pas.
D'accord. Non, c'est vrai que à cet âge-là, on a souvent la peur du jugement, comme tu dis. Et souvent, on a la peur du jugement aussi parce qu'on pense qu'on va être ridicule ou qu'on pense qu'on... Enfin, voilà, souvent, on a une conception de nous-mêmes qui est assez, assez négative et du coup, ça déclenche une certaine timidité. Enfin bon, après, on n'est pas là pour essayer de comprendre tout ton inconscient quand tu étais enfant. C'est pas le sujet. Mais non, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment tu as réussi à surpasser ça en commençant par les enfants. Et je pense que c'est une super leçon de vie. S'il y a des gens qui sont très timides et qui écoutent, commencer par travailler avec des enfants où il y a beaucoup moins cette peur du jugement parce que les enfants n'ont pas du tout les mêmes codes que les adultes, je pense que c'est un bon moyen, voilà, de s'habituer à parler et de dépasser cette timidité. Super, donc merci Thomas pour le conseil. Et alors, donc à ce moment-là, tu étais à Versailles.
C'est ça.
Et le moment où tu as senti que tu stagnais dans le métier et tu as envie de retrouver tes rêves de voyage, à quel moment, voilà, ça s'est passé et comment ça s'est passé?
On va dire qu'à ce moment-là, je rêvais pas forcément de voyage. C'était quelque chose que j'aimais regarder potentiellement, tu vois, à la télé, Antoine de Maximi, tous ces trucs-là, mais c'était pas encore un truc que je prévoyais. Par contre, forcément, je prévoyais des voyages avec mes amis, mais on n'arrivait jamais à se mettre d'accord. Enfin, bref, ça donnait des trucs complètement abstraits, le voyage. Donc, je continue dans ma lancée d'animateur, année après année. Au final, bah, je suis resté 10 ans à Versailles pour faire pratiquement le même métier, hein, même si après, j'ai pris des postes avec responsabilité. Et en fait, pendant ces 10 années, là, vers la fin de ces 10 années, en parallèle, moi, j'ai créé une chaîne YouTube. D'ailleurs, une chaîne YouTube que j'ai créée même au tout début de YouTube, donc en 2006. J'ai toujours aimé créer des vidéos. Et pareil, c'était une part importante aussi. Comme j'étais timide, j'aimais bien pouvoir m'exprimer à travers une caméra. C'était un échappatoire. Bref, en tout cas, cette chaîne YouTube, je l'ai construite petit à petit. Et donc, je continuais à faire des vidéos. Et entre-temps, donc à cette période-là de l'animation, j'ai découvert la gyro-roue pour me déplacer. Donc, c'était pour aller au travail, pour remplacer ma voiture. Et je me suis lancé comme projet, ça devait être en 2018, de faire un Tour de France. Donc là, je travaillais toujours en tant qu'animateur à Versailles. J'avais un mois de vacances en été. Je me suis dit, bon, personne ne l'a tenté. C'est un projet qui m'intéresse. Moi qui n'ai jamais vraiment rien fait en termes de voyage. Tu vois, j'avais jamais fait de camping. J'étais jamais parti comme ça à l'improviste avec un sac à dos, seul, pour rencontrer des inconnus. Ça, c'était impossible. Ça n'existait pas. Donc je me suis dit, ok, je vais me lancer dans ce projet-là, puisque bah voilà, j'ai ma petite chaîne, je vais pouvoir partager un peu mes aventures et puis les gens qui me suivent vont pouvoir m'aider. Je partais vraiment pas seul en fait, parce que je savais qu'il y avait des gens qui allaient me regarder, qui allaient pouvoir m'héberger à droite à gauche. Voilà, je sautais pas non plus sans parachute. Donc, mais c'était quand même, je partais pour une première expérience de voyage. Donc je fais ce premier voyage donc en été 2018. Je rentre, je me souviens très bien, je rentre après un mois, après avoir réalisé plus de 3000 bornes sur ma roue. En un mois.
Autour de la France, donc.
Autour de la France. 3400 kilomètres, ouais.
C'est une fusée que t'as pris, là.
Quasiment 100 bornes, ouais, 100 kilomètres par jour, à peu près.
Ah oui, quand même.
J'avais jamais roulé autant, déjà dans une journée, 100 km, j'avais jamais fait. Donc je partais vraiment. Je savais pas si j'allais pouvoir être capable de voyager. Mais en plus de ça, je savais pas, et personne ne savait, si la gyro-roue était capable de tenir autant de kilomètres et autant de charges, et si quelqu'un dessus, debout, pouvait tenir autant de temps. Donc voilà, il y avait tout ça qui se construisait petit à petit. Donc c'était un vrai challenge, et je suis rentré de ce challenge et je me suis dit, ok, je veux encore plus, je veux plus. Et là, on arrive, ça faisait donc 9 ans que je bossais dans l'animation, et ça a été vraiment ce moment-là, ce moment précis, quand je suis rentré du Tour de France, que je me suis dit, ok, j'arrête en fait, j'arrête de travailler, et je tente un tour du monde. Je pars une année, je fais une année pour moi, une année pour voyager, pour découvrir et pour partager ce voyage aussi à travers des photos, des vidéos et plein de choses. Du coup, bah voilà, ça a été ce moment précis vraiment où je me suis dit, ok, j'arrête. Et donc j'ai pris une année où je travaillais encore et puis une année sabbatique qui finalement j'ai prolongée encore aujourd'hui, quoi.
Super. Et pendant le Tour de France, donc. Alors, est-ce que c'est possible, du coup, de rester debout pendant 100 km, de faire travailler la roue ?
Bien sûr, ouais.
Quels sont les tips, ça ?
Ben, y a pas, hein. Tu sais, c'est comme, peut-être que tu en as déjà croisé, des voyageurs à vélo qui n'avaient jamais fait de vélo vraiment plus que ça, quoi, et qui partent pour un tour du monde. Tu te dis, mais il faut t'entraîner quand même. Ben non, en fait, les premiers jours, c'est tes premiers jours de voyage, ça va être tes premiers jours d'entraînement, quoi. Donc forcément, tu souffres un petit peu. On va dire que la première semaine, tu as mal aux pieds, tu as mal au dos parce que tu as ton sac, tu as mal aux jambes parce que tu es debout toute la journée. Mais en fait, ton corps s'habitue, tu as un nouveau rythme de vie de voyageur finalement. Donc, tu t'habitues très vite et finalement, oui, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Super. Même plus que 100 km par jour maintenant.
Et tu arrives à recharger, enfin, comment ça se passe ?
Alors, pour ce Tour de France, je me souviens avoir vraiment analysé mon itinéraire. Donc, je savais tel jour, à quelle heure, entre guillemets, mais en tout cas, tel jour, à tel endroit où j'allais être. Donc, j'avais fait tout mon petit tracé, ville par ville, jour par jour, avec, voilà, OK, là, dans mon itinéraire, il y a telle grande ville à 50 km. Donc, normalement, je devrais pouvoir trouver une gare, un bar, un restaurant ou un camping pour pouvoir recharger. Donc, j'ai fait comme ça mon tracé. En plus, j'étais limité dans le temps puisque j'avais qu'un mois de vacances. Enfin, ce qui est déjà très bien, un mois de vacances. Mais j'avais ce mois, tu vois, c'était, enfin, tout était chronométré entre guillemets. Donc, je pouvais pas partir vraiment à l'arrache. Il fallait vraiment savoir où est-ce que je dors tous les soirs et tout ça. Donc,
j'avais tout réservé avant.
Alors, j'avais rien réservé, mais j'avais créé mon petit planning et je l'avais publié sur mes réseaux. Et en gros, pas mal de Français finalement m'ont contacté pour me dire, bah écoute, telle date, à tel endroit, je peux t'héberger. Donc petit à petit, tu vois, en 2 mois, j'avais peut-être allez 70-80% de mes nuits de voyage qui étaient bookées, donc avec des gens qui allaient m'héberger. Donc tant mieux. En plus, j'allais rencontrer soit des voyageurs, soit des gens qui font de la giro-roue. On les appelle les wheelers, donc des wheelers à travers la France. Donc c'était trop bien. Mais il y avait encore quelques nuits où je savais pas du tout ce qu'allait se passer pour moi, quoi. Et du coup, c'est très bien, parce que comme ça, c'était quelque chose qui m'attirait de faire un peu comme j'irai dormir chez vous, tu vois, aller à l'improviste, rencontrer des gens et dire, bah oui, peut-être que c'est possible pour moi aussi de partir et de faire comme Antoine de Maximy et aller sac à dos, on y va, on va rencontrer des gens, sortir un peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Et finalement, ouais, j'ai rencontré comme ça, j'ai dû faire une nuit... Chez des Français et nuit ou deux en bivouac sauvage. Enfin voilà, c'était vraiment le tout début. Je suis parti, j'avais même pas de tente. J'avais juste un sac de couchage.
Ah oui. À la Belle Étoile.
Ouais, voilà, c'est ça. J'ai dormi à la Belle Étoile, quoi.
Bon, en été, ça va.
En été, ouais. Ouais. Heureusement, c'était un mois de juillet où il a fait beau tout le temps, quoi.
Ah oui.
Pas eu une seule journée de pluie.
Et alors, pour revenir un petit peu sur le côté technique. Quand tu dis que des Français étaient prêts à t'héberger, en fait, c'était des Français que tu connaissais grâce à ta chaîne YouTube que tu avais déjà construite ou...
C'est ça, ouais. Quand j'expliquais là sur le programme que j'avais partagé, oui, c'est des gens qui me suivaient sur YouTube. Donc à l'époque, je devais avoir très peu d'abonnés, mais très peu d'abonnés dans une communauté à travers la France, c'est déjà pas mal. Tu vois, je devais avoir peut-être 1000 ou 2000 abonnés sur ma chaîne YouTube, ce qui est déjà bien, tu vois.
C'est déjà 1000 personnes.
Bah, c'est ça, oui. Mais tu vois, quand c'est 1000 personnes ou 2000 personnes qui font la même chose que toi, qui partagent le même engin, tu vois, faire de la giro-roue, tout ça, et qui aiment regarder tes vidéos, bah, déjà, tu sais que tu peux compter sur eux parce qu'on est passionnés et tout. C'est pas juste un simple abonné comme ça qui regarde de temps en temps. C'est quelqu'un qui est vraiment investi sur la chaîne YouTube. Et du coup, bah ouais, grâce à ça, ça m'a vraiment apporté de l'aide pendant ce premier voyage, quoi.
Super, super. Tu t'es senti soutenu alors ?
C'est ça, soutenu. Et pourtant, au début, quand j'avais annoncé, beaucoup pensaient que c'était pas faisable, quoi. C'était pas faisable.
Ah, c'est-à-dire beaucoup alors, tes proches ?
Pour l'anecdote, j'avais diffusé une vidéo pour expliquer le projet du Tour de France. Voilà, les villes par les grandes villes par lesquelles j'allais passer, que je cherchais en même temps des sponsors, en tout cas un partenaire pour avoir une roue qui tient la distance, parce que moi j'avais pas le matériel nécessaire. Et j'avais diffusé cette vidéo le 1er avril, donc 2018. Donc forcément, 1er avril, poisson d'avril, j'ai eu plein de commentaires et tout, des gens qui me disent « Ouais, tu nous fais une blague ?» Enfin, on n'y croit pas, quoi.
Excellent.
Et même si c'était pas une blague, tu verras que après une semaine sur ta roue, bah t'en pourras plus, quoi. Enfin, ça paraît insensé, quoi. Mais bon, je m'attendais forcément à ce genre de réponse. Moi, ça me freine pas du tout dans mon objectif. Justement, ça me donne encore plus envie de prouver que, bah non. Je veux essayer, quoi. Je veux essayer. Et puis au pire, bah c'est pas grave, j'aurais raté et je rentrerai en train ou en bus. Enfin bref, si personne n'essaye, on saura jamais quoi. Et je voulais surtout pas me focaliser sur ce genre de commentaires ou d'avis. Mais tu parles, là je parle des gens que je connais même pas, tu vois, qui m'ont mis des commentaires. Mais c'est vrai que autour de moi, c'était pas non plus voilà, très très enthousiaste, tu vois. C'est mais tu vas dormir où? Tu vas dormir chez des inconnus? Mais tu vas faire comment sur les routes? Tu vas être en danger. Enfin, voilà, ça, c'était pas très rassurant. Bah ouais, tu sais, t'es en roue au bord de la route, que ce soit à vélo ou à pied, ça rassure pas. En tout cas, moi, je sais que mes parents, ça les rassurait pas, quoi.
Mais tu allais pas sur l'autoroute, tu allais que.
Ah bah non, ouais. C'est comme à vélo, je prenais les petites routes, petites départementales, et la plupart du temps, j'étais sur des voies cyclables, des voies vertes. Mais oui, c'était surtout le fait de rencontrer des inconnus et le fait de pas vraiment savoir où dormir. Tu sais, de pas avoir réservé des nuits d'hôtel et tout ça et te dire bon, bah, ce soir, j'ai rien réservé. Ah oui, tu fais comment? Bah, on verra. On verra le jour J, quoi. Voilà. Donc, c'était vraiment, ouais, il y avait cette petite phase d'interrogation du fait que, bah oui, j'ai quand même des gens qui s'inquiètent et qui se demandent si c'est vraiment faisable, quoi.
Et tu n'avais pas connaissance de quelqu'un qui avait déjà fait ça en Giro-Roux, non? C'était.
J'avais quelqu'un d'autre un autre wheeler qui s'appelle Hugo et qui lui avait déjà fait du voyage en Giro-Roux. Et donc je l'avais contacté parce que c'est grâce aussi à lui que j'ai été motivé pour faire un voyage comme ça. Et donc on était en contact et tout, et finalement il m'a même accompagné pendant une étape de mon voyage en France. Mais lui il m'a dit tu peux. Lui il avait jamais été au-delà des 1000 et quelques kilomètres, et moi j'avais prévu 3000 kilomètres. Mais il me dit bon, écoute, pourquoi pas. Lui il m'a encouragé et il y avait un Français de je sais plus quel âge il avait, mais pas tout jeune, hein, tu vois, 50, 60 ans, peut-être l'âge de mes parents, et qui avait fait le Tour de France en skateboard électrique. Je dis, mais voilà, si lui, il est capable de faire, allez, pourquoi pas. Et donc, je l'avais contacté, et il m'a dit, mais attends, mais bien sûr que tu vas y arriver. Enfin, il m'a vraiment soutenu, et du coup, ça m'a vraiment encouragé, et enfin, j'étais du coup vraiment serein le jour du départ, en me disant, ok, je peux y arriver, enfin, à part, je sais pas, un accident. Enfin, si tu commences après à penser à tout ça, tu pars pas. Mais voilà, j'avais la tête sur les épaules et je savais que j'étais prêt à tout, quoi, pour y arriver.
Super. Génial. Et alors, donc, quand tu es revenu, et là, tu t'es dit, oh, c'était génial. Il n'y a pas eu de couac, ou presque pas. Je sais pas s'il y en a eu.
Non,
tout
s'est bien passé, quoi. Franchement.
Et là, tu t'es dit, je vais dépasser la France.
C'est ça. Donc, je rentre, je dis, ok, allez, on va aller plus loin. Donc, je commence à traîner un petit peu sur les forums de voyageurs, à regarder à droite à gauche les vidéos de voyageurs, et je m'inspire beaucoup des voyageurs à vélo, parce que je m'identifie beaucoup à eux. Dans le sens où on fait à peu près le même nombre de kilomètres par jour et on emprunte les mêmes routes. Donc je me suis dit, ok, je vais regarder les récits de voyageurs à vélo. Sauf que moi, je suis obligé quand même de m'arrêter pour recharger, tu vois. Eux, ils peuvent quand même enchaîner des bivouacs et continuer un peu plus loin. Donc je regarde, je me dis, ah, mais attends, Paris-Pékin, faire Paris-Pékin, ça s'est fait en vélo. Pourquoi pas le faire en giro-roue, par la route de la soie? Donc il y a la route de la soie qui est une route ultra connue pour les voyageurs, les transporteurs. Enfin, c'est une route qui existe encore et qui est potentiellement faisable en giro-roue. Donc je commence à me dire ça. Donc route de la soie, ok, peut-être que je vais partir 3-4 mois, je vais arriver jusqu'à Pékin. Trop cool. Après je me dis bon, c'est quand même dommage d'arriver jusqu'à Pékin et de pas faire d'autres pays, parce que enfin visiter la Chine, aller au Japon, aller au Laos, enfin voilà. Donc ok, peut-être que je peux faire plus. Après je me dis ouais, mais bon, une fois qu'on est là, autant continuer et partir une année et aller dans d'autres pays. Je voulais faire le Canada, je voulais faire la côte ouest des États-Unis. Donc allez, on transforme ça en un tour du monde. Donc c'est comme ça que le projet est venu petit à petit, quoi. Ça s'est transformé doucement en une année de voyage, voire plus, et donc en un tour du monde. Et après, donc je me renseigne un petit peu petit à petit sur l'itinéraire, et c'est là où l'itinéraire a un peu changé, c'est-à-dire que la route de la soie, finalement, je n'ai pas pu la prendre, parce qu'on arrive dans des territoires qui sont soit aujourd'hui un peu dangereux, soit totalement désertiques, et en fait, je ne peux pas traverser... Voilà, moi, au-delà des 100 km, ça devient compliqué. Il me faut une ville tous les 100 km. Donc, ça devenait compliqué. Il n'y avait pas de transport et tout. Donc, je me suis dit, comment je vais faire? Et après, je me suis dit, mais attends, mais à Moscou, en Russie, il y a le Transsibérien qui traverse toute la Russie et qui va jusqu'en Chine. C'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, finalement, j'ai transformé mon voyage en Paris-Moscou, où j'ai pris le Transsibérien et après, donc, de Pékin jusqu'en Asie du Sud-Est. À Moscou, après j'ai pris le Transsibérien jusqu'en Mongolie, et après le Transmongolien, donc je me suis baladé un peu en Mongolie en gyro-roue, et après j'ai repris le train jusqu'à Pékin, et après j'ai traversé la Chine, le Laos, le Vietnam, le Cambodge, et après, moi qui étais prêt à tout, je me disais, il peut rien m'arriver, et là, le Covid, le truc impensable, tu sais, le truc, tu te dis, mais c'est pas possible. Et encore, j'ai eu la chance de pouvoir voyager. Hein. Mais il y en a qui partaient, ouais. Tu sais, il y en a qui partaient et non, vous partez plus finalement. Tu sais, donc ouais. C'est finalement, j'ai quand même pu voyager 9 mois sur l'année que j'avais prévu. Mais c'est vrai
presque toute l'année.
Ouais, on va dire, j'ai fait quasiment tout ce que je voulais, tu vois. Il me restait le Japon, les États-Unis et le Canada. Et un peu des pays d'Europe du Nord. Mais bon. C'est pas grave, je me plains pas parce que j'ai quand même vécu un truc de fou, quoi. Mais bon, c'est vrai que je pouvais pas m'attendre à... Personne pouvait s'attendre à un truc pareil, quoi.
T'es sûr que ça nous a tous mis à l'arrêt. Hein. Est-ce que, durant donc, ce voyage, ce tour du monde, est-ce que t'as plutôt écouté ton intuition ou t'as plutôt fait confiance à ton mental ou les deux? Et surtout, est-ce que tu t'es retrouvé dans des situations dans lesquelles tu as jugé que ton mental te desservait?
Alors, très bonne question. Tu vois, justement, je pense qu'il y a les deux, mental et j'ai oublié l'autre mot.
Intuition.
Intuition, voilà. Mental et intuition. Enfin, je ne sais pas si j'appelle ça de l'intuition ou comment pour appeler ça? Du feeling. Moi, j'ai tendance à dire du feeling, tu vois. J'ai l'impression d'avoir un bon feeling, soit avec les gens, soit avec les lieux ou le moment. Mais effectivement, ça peut être de l'intuition. En fait, quand j'ai créé ce nouveau projet de Tour du Monde, je ne l'ai pas du tout créé comme j'avais fait mon Tour de France. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à planifier ce voyage, je me suis dit, OK, je ne veux pas du tout faire la même chose, parce qu'en fait, c'était dans les moments de galère pendant mon Tour de France que j'ai le plus rencontré de gens, où j'ai vécu les trucs les plus fous. Donc je me suis dit, OK, je veux juste savoir quel pays je vais traverser, regarder un petit peu les visas pour chaque pays à la frontière, si c'est bien possible, mais je vais y aller comme ça, quoi. Je prévois juste un jour de départ et pas vraiment de jour d'arrivée. Et donc j'ai vraiment navigué, entre guillemets, à l'aveugle, dans des pays que je connaissais pas. Et donc oui, j'ai vraiment suivi mon intuition, quoi, au jour le jour. J'ai vraiment voyagé au jour le jour. Ça a été une vraie découverte, quoi, de voyageur. Parce que même après mon Tour de France, je me sentais l'âme d'un voyageur en devenir. Mais pendant le Tour de France, le fait d'être hébergé et tout à droite à gauche et d'être vraiment bloqué date par date. Ça faisait plus un vacances en Tour de France que vrai voyage. Et là, d'avoir rien prévu, aucun logement, aucun tracé à proprement parler, ça m'a vraiment sorti des nouvelles, comment dire, des nouvelles, pas motivation, mais enfin, je sais pas, je me sentais capable, j'ai pas des nouveaux super pouvoirs, mais enfin des nouveaux pouvoirs, tu sais, comme Spider-Man qui découvre ses pouvoirs en sautant d'un immeuble. Là c'est pareil, tu vois, tu sautes dehors à l'improviste et tu découvres que oui, en fait, t'es capable de de parler à des gens dans un anglais approximatif, parce que mon anglais était pas terrible non plus. Donc oui, t'es capable de t'exprimer, t'es capable d'expliquer où tu vas, ou en tout cas demander conseil ou de l'aide, ou voire même de demander à dormir chez des gens. T'es capable de t'organiser tout seul pour les visas, faire toute la paperasse. Enfin, ça me paraissait impossible ou peut-être totalement flippant. Et au final, j'ai tout fait quasiment tout seul. T'es capable de partir dans des pays où tu sais même pas à quoi ça ressemble, ni la langue, ni la monnaie. Enfin, vraiment, partir vraiment dans l'inconnu, et je m'en sentais capable. Et plus les jours arrivaient, plus les pays que je traversais commençaient à être de plus en plus, comment dire, exotiques par rapport à la France, plus en fait je me sentais à l'aise. En fait, enfin, je l'ai vécu comme une transition, tu vois. Le fait de voyager par la route et de prendre le temps d'arriver à une destination, bah, ça a vraiment été une transition en fait pour moi, et de me sentir vraiment apte à voyager et bivouaquer à droite à gauche petit à petit, quoi. Parce que je l'aurais fait d'un coup, ça aurait été une autre histoire. Je me sentais de plus en plus à l'aise, dans le sens que j'avais déjà voyagé, tu vois, un mois, deux mois, trois mois. Je l'ai pas perçu comme une transition brutale. Ça s'est fait vraiment. Le paysage a évolué doucement en fait à mes yeux. Et du coup, bah, je me sentais totalement à l'aise en fait, même si ça reste un voyage et on sait jamais ce qui peut arriver. Mais en tout cas, je me sentais pas en danger. Je savais que j'étais capable de trouver où dormir, où manger. Enfin voilà, j'étais vraiment confiant et à l'aise dans ce voyage, quoi.
Super. Oui, et je pense que pour revenir sur la langue. Je pense que ça peut faire peur à beaucoup de monde, ça, le fait de ne pas savoir s'exprimer. Je sais que j'ai pas mal de connaissances qui me disent « Ah bah non, mais je pourrais pas parce que je sais pas parler une autre langue que le français, mon anglais est très approximatif. » Et finalement, quel serait peut-être le point de vue que tu peux apporter par rapport à ça ?
Alors, le point de vue, c'est qu'il faut... Pour moi, il faut quand même le travailler entre guillemets un petit peu avant de partir, ou en tout cas pendant qu'on est en voyage. Et il faut pas que ce soit une barrière. Quoi qu'il arrive, il faut pas que ce soit une barrière, parce qu'aujourd'hui, avec un téléphone, on arrive toujours à s'exprimer, à traduire au moins des choses. Mais c'est vrai que pour profiter quand même d'un voyage et de pouvoir rencontrer des gens, c'est quand même bien de pouvoir échanger quelques mots et de pas se sentir à l'écart parce que justement, on a du mal à s'exprimer. Mais en vrai, parce que moi, je me considérais vraiment comme mauvais en anglais, ça vient très vite. Le fait d'être loin de chez soi, entre guillemets, avec des inconnus que tu entends parler en anglais, bah, t'essayes de baragouiner, en fait, ton cerveau. Il a quand même emmagasiné quelques mots à droite à gauche, donc t'arrives quand même à discuter avec des gens. Bon, c'est pas non plus un anglais... Enfin, tu vois, on parle souvent des Français qui parlent pas bien l'anglais. Donc, les gens, ils le savent que t'es Français et que, de toute façon, ton anglais, il sera pas terrible. Mais ça fait rire et bon, ça a jamais été un obstacle, en tout cas, pour moi, pendant le voyage. Et même au contraire, en fait, j'ai progressé, tout simplement. Hein. J'ai progressé en partant en voyage. Et j'aurais jamais progressé si j'étais resté chez moi à regarder même des séries en anglais, quoi. Tu vois. À un moment donné, il faut partir. Ouais, il faut partir, il faut parler, et surtout, il faut pas se le mettre comme contrainte, parce que sinon, tu restes même si tu pars voyager et que tu dis bah non, je parle pas anglais, et du coup, tu vas rester avec des Français et tu vas pas progresser. Après, ça, si t'as pas envie de progresser, tant pis. Mais je pense que c'est quand même important de pouvoir s'exprimer, de discuter avec des locaux, tu vois. Bon, l'anglais n'est pas parlé partout. Hein. Il y a des pays, tu vois, typiquement la Russie et la Chine, c'est deux pays où j'ai senti le moins d'aisance en anglais, quoi.
Yes, ben justement, j'aimerais revenir sur ces pays-là parce qu'on en parlait hors antenne.
Oui.
Du fait que tu avais justement une conception très particulière de ces pays-là avant d'y voyager. Et finalement, c'est les deux pays qui t'ont le plus touché dans les rencontres et dans tout ce que tu as pu voir. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ?
On va dire que à la genèse du projet, quand j'ai annoncé que j'allais traverser la Russie, mes parents, mes amis m'ont dit, mais enfin, tu vois, où est-ce que tu vas là en Russie? Tu vas dormir où? Pareil, enfin, toujours les mêmes craintes. Mais après, ça part même sur des stéréotypes hein, qu'on a tous sur la Russie, la vodka, les gens qui roulent n'importe comment. Pour la Chine, c'est pareil, il y a beaucoup de clichés. Et du coup, ça fait peur aux gens. Moi, ça m'a jamais fait peur, mais c'est vrai que j'avais des pas des doutes, mais un flou complet sur ce qu'est réellement la Russie et sur ce qu'est réellement la Chine, tu vois. Donc, je suis arrivé par la route, hein. Je suis arrivé par la route depuis la Lettonie jusqu'à Moscou. Donc, de la frontière à Moscou, il y a quand même 800 ou 900 bornes. Donc, ça m'a pris une bonne semaine pour arriver jusqu'à Moscou. Et rien que là, forcément, je suis passé par plein de petits villages, par des forêts, mais magnifiques, par des lieux, mais enfin, trop, trop beaux, quoi. Et déjà, je me suis dit, ah ouais, ok, je commence déjà à bien aimer. Les gens, ils te perçoivent tout de suite comme un étranger, mais ils ont pas peur, quoi. Ils sont un étranger où ils sont prêts à t'aider. Ils disent, bon, lui, forcément, il est en Russie, il parle pas du tout la langue, on va pas le laisser en galère, on va faire de notre mieux pour l'aider. Donc souvent, je rencontrais des adultes qui parlaient pas du tout russe, pas du tout anglais, et qui faisaient appel à leurs enfants ou à des ados, tu vois, qui ont appris un peu l'anglais à l'école. Du coup, on faisait des calls avec eux pour essayer de comprendre ce que j'avais besoin et tout. Enfin, c'était drôle. Et en fait, en Russie, je me souviens, j'ai été hébergé à Moscou. On m'a trouvé un appartement à Moscou, quoi. Alors que le mec, je le connais pas. Bon, alors ça m'aidait parce que le mec, il faisait de la giro-roue, donc il avait suivi un petit peu mon voyage. Mais tu vois, il s'est démené pour trouver un logement pour moi. Il m'a accompagné avec d'autres Russes. Ils m'ont accompagné jusqu'au Transsibérien à la porte de mon wagon pour me dire c'est bien là et tout, bon courage, bon voyage. Dans le Transsibérien, pareil. Dans le Transsibérien, mais j'ai fait des rencontres. Alors par chance, il y avait un Russe qui parlait anglais. Du coup, il a pu me traduire. On a pu discuter avec plein de familles russes et tout là-bas. Enfin, c'est là où j'ai rencontré le plus de gens et où j'ai gardé encore des contacts, tu vois. Et en fait, maintenant j'ai une image. Alors je me suis fait mon image de la Russie, hein, mais forcément je pourrais refaire le même trajet et avoir une totale image différente. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment le pays, un des pays que j'ai préféré pendant mon voyage. Alors, c'est un pays compliqué, hein, tu vois, politique et tout. Même les gens, ils sont pas. Enfin voilà, il y a des stéréotypes. Forcément, les stéréotypes, ils viennent pas de nulle part. J'ai rencontré des gens un peu flippants, tu vois, et tout. Mais finalement, tu passes ton chemin et ça te marque pas plus que ça, tu vois. Parce que la majorité ne sont pas comme ça et en fait en voyage tu trouveras toujours des gens pour t'aider quoi. Si t'as le bon, tu vois comme tu dis l'intuition, si tu suis ton intuition, si t'as le bon feeling, tu rencontreras les gens qui te correspondent en fait, tout simplement.
Oui, le bon état d'esprit et puis l'ouverture et en plus je pense qu'une giro-roue pour le coup ça attire quand même pas mal l'œil en fait. Les gens sont super curieux.
C'est clair. Et la Chine justement, tu vois, je te disais avant d'y aller, j'avais aucune image des campagnes chinoises, tu vois. Tu arrives à t'imaginer un peu à quoi ça ressemble Pékin? À quoi ça ressemble Shanghai ou il y a quoi Hong Kong, toutes ces villes-là, parce que c'est des villes qui ont marqué notre imaginaire dans les films, dans plein de trucs. Mais en fait, dès que tu pars de ces villes-là, je savais pas du tout ce qu'il y avait, quoi. Je savais pas du tout. Et déjà, quand j'ai dû faire mon visa, t'es obligé de renseigner un peu tes hébergements. Donc je me suis dit ça va être l'occasion un peu de chercher au moins les trucs à faire et à voir dans le pays. Donc tu regardes un petit peu. Et après, tu vois les distances entre chaque ville. Et je me dis, OK, je vais faire ça en roue. On verra bien ce qui va se passer. Et en fait, c'est un peu comme en Europe, quoi. Tu sors d'une grande ville, mais tu tombes sur plein de petites villes avec leur histoire, avec les gens qui vivent là depuis toujours et qui sont fiers de leur ville, qui sont fiers de leur nourriture, qui vont te nourrir pour que tu goûtes à tout, qui vont te faire rencontrer plein de gens de leur village. Enfin, tu vois, ils sont très fiers de leur pays, ça se sent. Et la Russie, c'est un peu pareil. Et du coup, ils essayent de te montrer à chaque fois le meilleur côté. Donc, je me suis vraiment senti presque chez moi, quoi, en Chine, quasiment tout le temps, quoi. C'était de la folie. C'était de la folie.
Ah, super. Génial. Et là, donc, quelle a été la croyance principale que tu as fait sauter en Chine ? T'avais une conception avant d'y aller ou
Bah, la Chine, j'avais vraiment peur de la barrière de la langue, de pas pouvoir m'exprimer et de rencontrer des locaux. Donc ça, finalement, alors la barrière de la langue, c'est vrai, mais en vrai, avec avec le téléphone, bah, j'ai réussi quand même à discuter et ça a donné naissance à des discussions mais légendaires, quoi. Tu sais, avec des traducteurs qui traduisent à moitié le truc et tout le monde se marre parce que tu t'exprimes mal. Ça, et puis surtout la campagne, en fait, la campagne chinoise, c'est ce que j'ai préféré, tu vois, de sortir des grandes villes et de te sentir vraiment se sentir vraiment seul, loin du tourisme, loin de l'imagerie que j'avais, quoi.
D'accord, super. Et est-ce que, hormis la timidité, tu peux me citer un ou deux traits de ta personnalité qui te paraissent désagréables ou qui te limitent, mais que tu parviens malgré tout à dépasser afin donc de réaliser tes voyages, tes projets, tes vidéos? Et selon toi, qu'est-ce qui te permet de les dépasser?
Oh, ça, c'est le genre de question que tu aurais dû me poser avant. Ok, alors attends. Ouais, parce que j'aurais tendance à te dire de base, ouais, la timidité, forcément. Mais du coup, la timidité, ça vient aussi avec la sociabilité. Pendant très longtemps, j'ai cru que j'étais pas sociable, dû au fait de ma timidité, tu vois. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal, des fois, à me mêler à un groupe. Oui, je dirais la sociabilité, c'est ça que j'ai réussi à faire sauter, tu vois, à me sentir présent dans un groupe, tu vois.
D'accord.
Et comment j'ai fait? Bah, je suis parti en gyro-roue, tu vois, donc typiquement le truc qui déclenche de l'intérêt pour d'autres gens, qui déclenche de la curiosité. Donc voilà, grâce à ça, je me suis senti pousser un peu des ailes, tu vois. Je me suis dit, ok, bon bah oui, en fait je suis tout aussi intéressant que toi, et on va partager nos trucs. Je suis prêt à partager les choses que j'ai vécues, et j'ai hâte d'écouter ce que tu as à me raconter, parce que ça doit être super intéressant. Et tu vois, de fil en aiguille, bah je me suis senti ouais, sociable, tu vois, c'est le mot, en fait. On est proche de la timidité, je suis désolé, j'arrive pas à trouver un autre truc, mais
c'est pas grave.
C'était pour moi le truc le plus flagrant que j'ai réussi à
dépasser.
À dépasser, ouais, c'est ça.
Super. Et alors, comment l'apparition des réseaux sociaux a soit affecté, soit renforcé tes liens sociaux, justement, avec ta chaîne YouTube, ton Instagram, parce que t'as quand même 5000 abonnés.
Ouais.
Voilà, donc comment ça a renforcé tes liens?
Alors, comment te dire? La chaîne YouTube, ça a vraiment été, pour le voyage en tout cas, mon journal de bord. J'aime filmer, j'aime faire du montage. Je me suis dit, bon, je vais faire mon tour du monde, je vais le partager sous forme de vidéos, sous forme d'épisodes. Je le fais avant tout pour moi et mes proches, pour qu'ils sachent où je suis et comment ça se passe. Et puis, bah, si ça intéresse du monde, bah, tant mieux, tu vois. Donc, voilà comment je me suis finalement, malgré tout, rapproché de milliers d'inconnus, parce que maintenant, je dois avoir, tu vois, je suis parti de mon voyage, je devais avoir 5000 abonnés. Et aujourd'hui, après mon voyage, je devais en avoir une vingtaine de milliers. Donc, ça a créé pas mal d'engouement, pas mal de passion, pas mal de gens qui m'envoyaient des messages pour me soutenir chaque semaine. Tu vois, à chaque fois, je diffusais une vidéo. J'essayais de diffuser une semaine d'intervalle. Donc, j'étais proche, mais pas non plus à l'instant T. Du coup, j'avais l'impression de voyager vraiment pour moi, mais le fait d'avoir une caméra, je savais que ce que je faisais, bah, j'étais pas seul en fait. J'allais pouvoir le partager. J'allais pouvoir partager mes moments de doute, mes moments de galère, mes moments de joie, mes moments de rencontre, que j'allais pouvoir voilà faire vivre ce moment à travers une vidéo, et que derrière j'allais pouvoir nourrir ce voyage à travers YouTube. C'était un truc nouveau et enfin important maintenant pour moi, j'ai envie de dire. C'est tu vois, je sais pas si j'aurais vécu le même voyage si j'avais pas eu ma chaîne YouTube et si j'avais pas eu ma caméra pour filmer, tu vois. Est-ce que, tu vois, je te parlais de sociabilité, de timidité, est-ce que aussi le fait d'avoir la caméra, ça m'a, je pense que, tu vois, je me pose la question, mais je pense que c'est vrai, ça m'a poussé à aller faire des rencontres, tu vois. Alors, j'ai pas tout filmé, forcément, il y a plein de trucs où j'avais pas la caméra parce que je voulais pas le moment, je le sentais pas, tu vois, je voulais juste le vivre pour moi et que ça reste dans ma mémoire. Mais il y a d'autres trucs que j'ai filmé que j'aurais peut-être pas fait si j'avais pas eu la caméra, tu vois. Donc ouais, finalement ça a créé un lien effectivement sur les réseaux avec des milliers d'inconnus finalement. Et bah ça m'a encouragé en fait. Ça m'a encouragé de voir que ça plaît, de voir que c'est ça, tu vois, que ça, que t'as des gens qui te disent ah ouais, ben du coup grâce à toi ben je sais que je vais vouloir partir dans ce pays-là, découvrir ce pays-là, ou je sais que c'est possible de partir voyager en giro ou même à pied. Enfin, ça a été vraiment un truc incroyable et important en fait de filmer tout ça et de qu'on te le retourne, tu vois. C'est toujours difficile d'apprécier les commentaires positifs. Et c'est dur à apprendre d'accepter ça comme un cadeau, tu vois, d'inconnu. Mais en fait, il faut apprendre à accepter tout ça et justement le rendre comme on peut. En tout cas, moi, je le rends en vidéo, tu vois, en faisant tout ça, quoi.
Oui, c'est le partage, en fait. Et
c'est ça.
Pourquoi je te pose cette question, c'est qu'aussi je trouve souvent que dans le voyage, on a un petit peu cette croyance justement, enfin cette conception du voyage où ceux qui sont trop sur les réseaux, qui partagent trop leur voyage, on va les juger en disant que ils sont pas dans le moment présent. Et en gros, moi qui ne filme pas et qui ne suis pas du tout sur les réseaux, moi je m'imprègne vraiment beaucoup plus du voyage que toi. Enfin, il y a un petit peu cette dichotomie parfois quand on parle avec des voyageurs. Et en fait, c'est pour vraiment montrer, en te posant cette question, que non, en fait, chacun crée sa réalité en fonction de ses propres aspirations. Donc, si toi, le fait de le filmer, de le partager, ça t'a encore plus encouragé, il faut pas se limiter à se dire « Ah non, je veux pas filmer ou je veux pas le partager sous prétexte que je serai pas dans le moment présent. » Parce que ça t'a pas du tout empêché d'être dans le moment présent, au contraire.
Non, mais tu vois, comme tu dis, effectivement, c'est chacun a sa façon de raconter son voyage, parce qu'un voyage, t'es obligé à un moment donné de le raconter, tu vois. Donc, soit tu le racontes à tes proches par voie orale, soit tu décides de l'écrire, soit tu décides de prendre des photos, mais en fait, un voyage, tu pourras pas le garder pour toi, sauf si vraiment tu veux t'isoler du monde et tu veux vivre que pour toi, quoi. Mais pour moi, quand tu voyages, tu peux pas le garder pour toi, c'est pas possible. Après, c'est mon interprétation, mais je pense que pour toi aussi, tu vois, tu même si t'as pas fait de vidéo, tu partages d'une autre façon.
Fais des photos.
Voilà, tu fais des photos. Après, c'est vrai que la notion des réseaux, pour beaucoup, voyager, c'est aussi une façon de se couper un peu de tout ce monde. Et c'est tout en leur honneur, et je l'ai fait aussi de temps en temps, mais je suis resté quand même, tu vois, le soir, je suis dans ma tente, je vais me connecter à Instagram et je vais aller partager une photo, mais parce que on se rattache, comme tu dis, à un monde qu'on connaît, et Et ouais, c'est une manière de montrer que, enfin, c'est pas une manière de montrer, c'est une manière de partager et de, parce que j'aime pas trop le mot influenceur, mais finalement, quand tu fais
inspiré.
Des photos, voilà, c'est ça, inspiré. Exactement, chercher ce mot. C'est exactement ça. Parce que forcément, tous les voyageurs, alors peut-être pas les tout premiers voyageurs, mais on a tous été inspirés à un moment donné par quelqu'un. Tu vois, si cette personne-là n'avait jamais partagé son voyage, bah, on se serait jamais dit, ah, bah, oui, en fait, moi aussi, je suis capable de. Et je pense que c'est important de trouver sa manière de vouloir partager son voyage, tu vois.
Et tout à
après,
fait.
On, libre à chacun de le partager juste pour son cercle personnel, tu vois, familial et tout ça. Hein. C'est pas obligé de mettre effectivement sur les réseaux YouTube, Twitter, tout ça. Hein. On peut le garder très bien pour chez soi. Tu vois, il y en a beaucoup qui font des cadres photos. Il y en a beaucoup qui se font des diapos qui se font circuler par mail avec leurs parents ou des collègues. C'est très bien. Mais c'est déjà superbe, je trouve même.
Bien sûr, et c'est vraiment pour montrer que voilà, libre à chacun de le partager comme on veut, et ne pas, si on a vraiment envie de le partager, ne pas se limiter en se disant que ça ne va pas nous permettre d'être dans le moment présent. On en aura toujours des moments où on va se couper des réseaux, où on va voilà vivre que pour nous. Tout est une question d'équilibre en fait.
C'est ça.
Donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour ce partage, Thomas.
De rien.
Et alors, on approche vers la fin du podcast, donc j'ai deux dernières questions pour toi.
Allez.
Quel est ton challenge actuel, le risque que tu souhaiterais prendre aujourd'hui et par quoi es-tu potentiellement freiné?
Alors, mon challenge actuel, c'est de pouvoir continuer à voyager, mais en même temps... Bah, pour pouvoir voyager, il faut avoir des revenus, donc trouver cette façon qu'ont beaucoup de voyageurs d'être, comment dire, tu sais, ah, mince, freelance, pas freelance, mais je trouve pas mes mots.
Ah, nomade digital, non.
Ouais, voilà, si ce genre de choses-là, tu vois, d'être nomade digital, donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que ça permet de voyager tout simplement, donc si j'arrive à faire ça, ce serait top. Ce qui me freine, ben c'est que j'ai pas encore trouvé comment faire tout ça. J'ai tenté pas mal de petites choses. Aujourd'hui, ben ce qui me rapporte le plus, c'est ma chaîne YouTube. Malheureusement, c'est pas suffisant pour voyager, et c'est encore une obligation. C'est-à-dire que ce qui m'a rapporté le plus, c'est de faire des vidéos de voyage, finalement. Mais j'ai aussi envie de pouvoir voyager et de pas filmer, forcément. Donc, il faut que je trouve... C'est-à-dire que j'ai fait déjà ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire raconter un voyage. Maintenant, si je veux pouvoir continuer à voyager et pas filmer, il faut que je puisse le faire d'une autre façon. Donc, j'essaie de trouver d'autres trucs. Mais c'est pas évident, forcément. Mais je m'empêche rien. Je m'empêche rien, là, aujourd'hui... je travaille pour repartir dans quelques mois. Donc, il y a toujours une autre façon, en tout cas, pour voyager.
D'accord, super. Et alors, question finale donc, du podcast. Penses-tu que nous sommes illimités?
D'illimités?
Penses-tu que nous sommes illimités en tant qu'être humain?
Parce que forcément, on est limité par notre physique. J'entends par là par notre compétence physique. Donc, yes. Forcément, à un moment donné, on est tous mortels, tu vois. Donc, plus on se rapproche de l'âge fatidique et plus ça devient compliqué. Mais en tout cas, pour la notion, si je reste sur le voyage, pour moi, tout est possible. Et donc, oui, j'aurais tendance à dire l'être humain est illimité pour le voyage. Parce qu'à chaque fois, on est surpris par des nouveaux voyageurs, par des nouvelles destinations, par des nouvelles manières de voyager. Et donc, tant qu'on n'aura pas tout fait, on sera illimité.
Ah, super. Super pour le mot de la fin, Thomas. Thomas, merci beaucoup pour cet épisode très enrichissant et qui vient faire sauter beaucoup de croyances hein, sur les manières de voyager, sur les rencontres qu'on peut faire et les idées préconçues qu'on peut avoir d'un pays. Merci J'espère. Beaucoup.
Merci à toi et merci à vous.
Retrouvez les Destins Flottants sur Instagram et Facebook. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée. Quelque chose qui me tient à cœur également, n'hésitez pas à me partager les croyances limitantes que vous pensez avoir. Nous pouvons en discuter. Merci infiniment. À bientôt.